Bienvenue sur l'émission Enquête de cinéma sur Radio Galère pour la carte blanche de l'art d'être en paix, entre parenthèses ADEEP, ADEP, présentée par Lino Alamour et Yann Du. Il s'agit d'une rétrospective des podcasts Les Rencontres Frénétiques pour les 20 ans du Polygone Étoilé lors de la 15e semaine asymétrique 2022. Ben, on va commencer par se présenter.
Ben,
Yann,
allez.
Tu veux commencer?
Ben oui, vas-y, présente-toi. Oui.
Ben, on fait une présentation inversée, donc je présente Yann.
Ah.
Yann Vu, qui est ingénieur du son, c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis, il est aussi cofondateur donc, de l'association Art d'être en paix. Et on se connaît depuis une dizaine d'années, à peu près.
10 ans.
Et puis, ouais. Et puis, ben, aussi un ami, enfin, plein de choses, quoi. Quelqu'un talentueux, qui écrit bien, qui a une écriture qui lui est propre, et voilà.
Bon, ben, je présente Lina Alamour, cofondatrice de l'ADEP, Art d'être en paix, réalisatrice scénariste, c'est défini comme ça, qui a plein de ressources étonnantes dans son parcours. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, suite à une intersection de nos parcours, intergénérationnels et inter-tout en fait.
Inter-tout. Inter-locophone.
Et voilà, donc c'est une voyageuse, c'est une. Elle voyage dans le temps, quoi. C'est une jeune femme de son époque.
Waouh!
Voilà.
Je pourrais en dire de même pour toi. C'est vrai que ça fait un peu à les personnes qui ne tarissent pas d'éloges, mais c'est vrai que artistiquement, enfin, si on doit détailler nos parcours artistiques respectifs, ben on en a fait des choses. Enfin, toi, t'es aussi bien doué manuellement que de manière sonore aussi. T'as une oreille particulière, une sensibilité particulière. Comme je disais tout à l'heure, une écriture, mais je pense que c'est lié au son aussi. Enfin, t'as vraiment une façon de ressentir le son qui t'est propre et qui me touche aussi, et qui même m'a initié à ça, parce que c'est un univers dans lequel on... peut-être la société ne nous fait pas rentrer automatiquement. Et parfois, on a tendance à se censurer et tout ça, et toi, tu m'as réappris à écouter Et en plus, comme tu es quelqu'un de passionné, tu transmets, je trouve, facilement ta passion, justement.
C'est peut-être avec l'expérience aussi. Et puis, je suis quelqu'un qui n'abdique pas dans la difficulté. Et j'ai la capacité à m'adapter.
C'est vrai.
À toutes les époques et toutes les périodes.
Complètement.
Du coup, quand tu arrives à t'adapter, que tu restes quand même... tu te crispes pas devant les événements.
C'est vrai.
Au contraire, tu restes souple. Tu apprends beaucoup plus de choses.
C'est clair.
Tu apprends de tes erreurs et tu apprends le monde comme ça, quoi.
Complètement.
En fait.
Puis ça évite de devenir un peu has-been ou réactionnaire.
Ou aigri.
Ouais, voilà. Carrément. Parce que quand même, je souligne que tu as plus de 60 ans. Et moi, je suis toujours fascinée par ta capacité à t'adapter aux nouvelles technologies et tout. Enfin, des fois, même par rapport à moi, où je peux avoir des blocages, toi.
Parce que je suis un technicien.
Ouais.
Dans tout ce qui est beau dans la technique, c'est de chercher, d'apprendre. On ne sait pas tout sur tout. Et quand on ne sait pas, ben on va chercher et le net, internet, etc. qu'on n'avait pas avant. Avant, pour chercher, il fallait avoir les machines. Hein, par exemple, dans le son, il fallait avoir des machines qui étaient inaccessibles.
Il fallait
apprendre.
Aller dans les bibliothèques ou enfin trouver l'information.
Voilà.
C'était difficile.
Quoi. Alors c'était autre chose. C'était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tonique, parce qu'il fallait aller chercher.
Oui.
Il fallait faire des kilomètres pour aller chercher tel matériel.
Et puis il y a une notion de rencontre aussi.
Voilà.
Ouais, qu'il y a moins
il fallait se déplacer en fait. Aujourd'hui, t'as un plug que tu connais pas, que t'as envie d'intégrer, tu vas sur le net, tu peux tout apprendre en fait.
Ouais,
c'est vrai. Et du coup, je trouve ça passionnant parce que ça supplée presque à l'école. quand quelqu'un a une base, en fait, intellectuelle, ou l'école n'apprend pas grand-chose aujourd'hui. Ben, est-ce que... En fait, il y a une...
Mais est-ce que, quelque part, à l'école, ça n'apprendrait pas à apprendre?
Ça devrait.
Ben, je pense, une certaine forme, avec une certaine logique, mais pas toute. C'est peut-être ce qui...
C'est-à-dire que ceux qui donc, nous apprennent, ben, les professeurs qui sont un métier hautement symbolique dans nos sociétés, le professeur, en fait, il ne va pas aussi vite dans l'apprentissage des nouvelles technologies que les enfants. Du coup, il y a un décalage. Et du coup, eux, ils ont une...
Ben, c'est qu'il est limité par une charte.
Voilà, ils ont une pratique. Aussi, une pratique
Et qui doit être conforme aussi à ce que la société leur demande.
Et tout ça, il faut le dépoussiérer. Mmh. Parce qu'à un moment donné, on le voit bien, ça bloque. Tu vois, et on voyait pour l'éducation à l'image, par exemple, ou le cinéma, quand c'est eux qui prennent les choses en main, c'est catastrophique.
Les
profs,
Ah d'accord, je croyais que
quand les profs proposent un atelier cinéma aux gamins ou théâtre, etc.
100% encadré par l'adulte.
Ouais. C'est pas bon, en fait, parce que l'enfant et le théâtre, le cinéma, c'est l'inverse.
Il doit se l'approprier.
C'est l'écriture, la pensée, le point de vue.
Tout à fait.
C'est l'enfant, c'est le point de vue de l'enfant.
Complètement.
Et ce dialogue devrait partir de l'enfant.
Bien sûr.
Vers l'adulte.
Tout à fait.
Et alors que c'est toujours l'inverse.
Enfin, justement, c'est pas forcément ce qu'on fait à l'ADEP. Hein.
Non,
mais
nous.
Donner la parole, justement.
Nous, on
est juste là pour mettre un cadre et pour pouvoir les pousser le plus loin possible à titre professionnel. Mais.
Tout ce qu'on a dit, c'est que. Les accompagner dans leur pratique technique, qui pour nous n'est pas l'enjeu. La technicité, c'est pas l'enjeu.
Non.
L'enjeu, c'est leur point de vue. C'est qu'ils arrivent à exprimer leur point de vue à travers un cadre, à travers une prise de son, à travers et savoir ce que c'est qu'un champ contre champ, qu'une vue subjective, qu'un son hors champ.
Oui, qu'ils arrivent à poser, à concrétiser ce qu'ils ont dans la tête.
Voilà.
Quoi.
Et une fois que tu leur as apporté ces deux trois éléments, eh ben ils le font très très bien.
Complètement.
Ils n'ont pas besoin de nous.
Et du coup, donc, pour avancer, comment est-ce que t'es arrivé de là au cinéma, au son
Alors là, c'est...
On est toujours sur le parcours.
C'est une drôle d'histoire. En fait, c'était en 79. J'étais charpentier. Et Jean-François Nepla, que je connaissais déjà...
qui est le cofondateur de l'association Film Flamme.
J'étais à Tenon et ils étaient là. J'étais le voir. Il me dit on cherche des mecs qui sont capables de poser, parce que c'est Radio Pirate à l'époque. Donc il fallait poser des antennes sur les toits, dans des sapins, en hauteur. Et puis c'était des grandes antennes, hein, c'était pas des petites antennes.
Ok.
Et l'enlever rapidement s'il y avait quelque chose, etc. Donc il fallait qu'il y ait des gens, des charpentiers, pour courir sous le toit, des trucs comme ça. Et j'ai commencé la radio, comme ça.
C'est par là tes compétences de charpentier.
Voilà,
génial.
Donc je posais les antennes. Et puis j'ai rencontré un gars, un électronicien. Donc en basse tension, qui connaissait parfaitement les émetteurs, les récepteurs, qui avait toujours son fer à souder. Et je trouvais ça passionnant, parce que moi qui travaille sur des grosses masses, avec la hache, couper des troncs d'arbres presque.
Pour ceux qui n'entendent pas, il y a Yann qui est en train de mimer là du poing comme s'il tambourinait.
Et là, c'était de la microchirurgie. C'était faire des petits points de soudure, etc.
C'est dur,
Et en fait, le mec, j'ai fait les premiers points de soudure comme ça, de cartes, en fait. Et Il me dit, ah ben, t'arrives quand même bien avec tes, parce que j'ai des gros doigts, hein. Et il me dit, ah, t'es très manuel, t'es très, et du coup, j'ai commencé à souder mes premiers câbles, mes premières prises, mes premiers émetteurs, ponter des, on faisait de la radio, alors ça va rien dire à personne, mais, avec, des Walkman, stéréo, et on a fait une table de mixage, qu'avec des Walkman, en fait.
Oh, je suis sûre que ça parle à certains.
Non, les Walkman, c'était les cassettes à l'époque.
Ouais, c'était des CD. Enfin, oui, il y avait la version cassette qui est devenue CD
c'est
après.
C'est avant, c'était version cassette. Et les Walkman, c'est les premiers Walkman qui ont des écouteurs de musique, quoi, en fait.
Ouais, tout à fait.
Et avec ça, on a créé des tables de mixage avec plusieurs. Alors, on récupérait des Walkman, on les ressoudait entre eux.
C'est vrai que c'est l'équivalent de l'iPod, mais même l'iPod, je pense que, voilà. Selon quand vous écoutez, l'iPod aussi n'existe plus.
Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le son, en fait. Et tout de suite, j'étais passionné, j'ai fait des émissions radio, effectivement, aussi. Et après, j'ai suivi Jean-François, on est parti sur Grenoble. On a fait la première télé pirate de France, qui était aussi une expérience incroyable. Et là, on monte en gamme, du coup. Hein.
Ah, la télé.
Et là, il fallait qu'on attende 1h du matin pour se récupérer sur les relais de...
Des
chaînes nationales,
wow.
Oui.
Les chaînes hertziennes, donc.
Oui, voilà.
Wow.
Ouais. Et du coup, il y avait tout un truc, on ne dormait pas. C'était une sacrée aventure. Hein.
Ah bah, en plus, il fallait changer d'endroit à chaque fois, sinon vous faisiez griller, je pense.
Voilà, et puis on allait avec nos caméras, fallait faire les reportages, faut alimenter le truc. Hein,
bien sûr.
Et du coup, on a fait pas mal de vidéos institutionnelles aussi pour manger, quoi. Donc, pour des entreprises, moi j'ai fait des pubs pour Salomon, des trucs comme ça. Et après, on a
Salomon,
tous travaillé.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de sport.
Marque de ski.
De ski, entre autres.
Voilà.
Et mais de sport, hein, Salomon, je crois, il faut aussi surf et tout ça. Enfin,
tout ce qui glisse.
Oui.
Tout ce qui glisse, en fait.
Oui.
Surf,
oui, sport.
Ski nautique. Et du coup, pour vivre et pour manger, on a tous été intermittents du spectacle sur FR3, où moi, j'ai fait championnat du monde de boxe. J'ai suivi l'équipe de France de hockey sur glace, enfin. Et puis, on a fait beaucoup de courts-métrages, on a fait, et c'est là que j'ai rencontré Jean-Marc Vivenza, qui, lui, est celui qui a relancé le brutisme au niveau international. Alors, le brutisme, il y avait deux choses. Il y avait Schaffer, dans les années 60. Qui est un peu, on le définit, enfin une partie des gens, comme le père de l'électroacoustique. Voilà. Et pour nous, brutistes, c'est Russolo, 1914. C'est un Italien qui était dans les mouvements brutistes, futuristes, cubisme russe, etc. Tous ces mouvements-là. Et qui a fait le premier disharmonium, en fait. C'est une espèce de gros de machine pour emprisonner les sons.
Ok.
Voilà. Et du coup, j'ai travaillé aussi beaucoup dans l'expérimental musique. Du coup, on a fait des concerts, on a fait. Puis voilà, en gros, mon parcours, c'est ça. Et après, c'est des rencontres, beaucoup de rencontres. De gens...
T'es devenu réalisateur aussi ?
Après, oui, c'est plus tard. J'ai arrêté le son pendant une dizaine d'années, hein, quand même. Quand j'ai repris le bâtiment, parce que moi, j'ai toujours été... la fameuse dualité, en fait. Les passions, je les fais jusqu'au bout. Donc, le bâtiment me manquait par rapport au son. Et donc, je suis revenu dans le bâtiment. Et après, c'est là qu'on s'est connus, donc en 2012, où je lâche le bâtiment et je reviens définitivement dans le son. Quoi.
Carrément.
Voilà.
Tu me fais une très belle transition, parce que du coup, pour mon parcours artistique, comment ça s'est passé Donc moi, j'avais un professeur d'art plastique. En fait, je vais même revenir en arrière, en sixième, parce que les mercredis après-midi, donc, il y avait une activité sportive. Les prédominants, c'était basket ou foot pour les garçons et natation pour les filles. En gros, c'était ça. Même si c'était pas forcément cloisonné sur un genre, mais en tout cas, c'était la tendance dans l'environnement dans lequel j'étais. Et il se trouve que cette prof de natation, Madame Cohen, était raciste, dépressive, elle était en train de divorcer, enfin, une horreur, quoi. Si bien que quand elle me coachait, quand il y a eu mon premier concours, je suis arrivée dernière. Elle hurlait, tout, enfin, une folle, et après, elle finissait en pleurant, enfin, bizarre. Donc, ben, j'ai quitté la natation, c'est dommage, parce que j'aimais beaucoup ça, mais voilà, comme tu dis, c'est une histoire de rencontre, et... Pour moi, voilà, elle, malheureusement, ça n'a pas matché. Et du coup, c'est pas que j'ai associé la natation à elle, mais en tout cas, voilà, à cause d'elle, ça m'a pas développé la passion davantage, en tout cas, qu'elle ne l'était. Du coup, l'année d'après, j'ai fait art plastique. Je me suis dit, je vais changer, tiens. Et en plus, on n'était pas beaucoup dessus. On devait être 5 ou 6. Et il se trouve qu'il y a une élève dans ma classe, Johanna, dont les parents étaient cinéastes, à savoir Jean-François Néplat et Gaëlle Vu. Gaëlle Vu, donc, qui est ta sœur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée embarquée à 13 ans à réaliser un court-métrage donc collectif. Sauf que, comme on était divisé en plusieurs groupes, je me suis retrouvée seule à en faire un, en partie. Et le groupe a déterminé que c'était mon court-métrage. Et voilà, donc, bon, j'étais contente. Enfin, je n'avais pas de prétention particulière, mais j'étais honorée, en tout cas, de ce qu'ils ont pensé, enfin de ce qui en est ressorti, et voilà. Et comme après, bah, il fallait présenter ce film qui a été dans une succession de 22 courts-métrages de différentes personnes du quartier du Panier, dans lequel j'habitais aussi. Donc moi, je faisais partie des premiers, quoi. Il y en avait deux faits par Jean-François qui avaient testé le projet. Ensuite, nous, on en a fait deux autres, le 3 et 4, et après, donc jusqu'à 22, qui ont donné un long-métrage. Donc ça fait un beau panel représentatif des personnes d'une époque dans le quartier du Panier. Mmh. Et donc il y a de tout, hein, artistes, danseurs, chanteurs, peintres, des personnes plus terre à terre, mais qui ont du caractère, avec un bel accent marseillais. Enfin voilà. Si bien que ça a même été présenté à la Sorbonne, il y avait le Festival de Manosque. Enfin, voilà, moi à 13 ans, de défendre... C'est les premiers films, j'ai trouvé ça génial, quoi, le côté promotionnel, entre guillemets, quoi. Enfin, plutôt même débat-rencontre avec un réalisateur et son public. Et voilà, quand on est jeune, c'est intéressant de se confronter voilà, à ça. Et ouais, si bien que ça m'a plu et qu'à chaque fois dans mes études, dès que je pouvais avoir une option artistique liée au cinéma, je l'intégrais à chaque fois. Et en école de commerce, j'ai fait Subdoco Amiens. Je gérais une association qui s'appelait Cinequanon, où j'organisais des voyages dans des festivals de cinéma. Plus il y avait location de DVD, tout ça, à l'époque. Internet n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Mais bon, on était sur la fin à ce niveau-là. Et après, donc, spécialisation création d'entreprise. Et en parallèle, j'ai fait une licence en sciences politiques. Parce que je voulais être journaliste reporter, mais le journalisme, en fait, m'a moyennement plu, parce que on t'oblige à te donner une direction éditoriale avec laquelle t'es pas forcément en accord tout le temps.
Un cadre, ouais, c'est pas le même.
Voilà, métier, ouais, ouais. Non, les lignes éditoriales, des fois, c'est même à l'encontre de ce que tu penses, ou voilà. Donc, ça m'a un peu... Enfin, ouais, je me suis sentie bloquée, alors que, voilà, comme j'avais plus l'esprit entrepreneur, je suis partie tourner mon film à Madagascar, et quand je suis revenue, j'ai stoppé les études. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. J'avais créé un blog qui s'appelait L'art d'être SDF sans dormir dehors, parce que je voulais pas dormir dehors, et justement, les gens se sont pris d'amitié. Il faut savoir qu'en 2010-2011, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et avoir 10 000 vues en un mois, c'était incroyable. Donc, ça m'a valu des articles de presse, sur des blogs, invités. Il y a même France 2 qui m'a contactée, mais pareil, ils avaient une ligne éditoriale qui correspondait pas à la mienne. Donc, voilà. En gros, il fallait que je parle du misérabilisme en tant que SDF. Et je
d'ailleurs, c'était dommage, parce que j'avais dit de l'enregistrer.
Alors je l'ai fait, mais sauf que comme c'était dans un restaurant, il y a trop de bruit d'assiette et tout ça, et voilà. Mais
c'est dommage parce que là, on avait vraiment la preuve de la manipulation des médias. Sur tout.
Puis là, c'est chaîne publique, quoi, France 2. Bon, après, c'est des productions externes, mais bon, qui collaborent avec eux, clairement.
Que même le documentaire est complètement scénarisé.
Complètement.
Donc, c'est des fictions.
Complètement, tout à fait.
Et on le voit aujourd'hui dans le documentaire, c'est la pure fiction. Et on ne sait plus où est le vrai du faux. Oui. Même les personnages, c'est des personnages en fait.
Bien sûr, mais c'est même pour ça que du coup je me suis dit, bah tant à recréer ce que je veux, bah autant basculer dans le cinéma. Là j'aurais toutes mes libertés, et parfois même en fictionnant, tu dis beaucoup plus de vérité tu n'aurais pu parce que...
C'est comme le roman et l'autobiographie.
Ouais, tout à fait.
Le roman, tu te lâches.
Voilà, c'est ça. Il dit beaucoup plus de choses couvert du mot roman.
Tu uses les métaphores comme tu veux.
Complètement.
Non. Et bah, ça nous fait arriver sur Film Flamme.
Oui, parce que du coup, nous, comment on s'est rencontrés? Du coup, Film Flamme existait déjà. De quoi?
Et les fameuses semaines asymétriques.
Oui, alors ça vient après. Mais comment est né Film Flamme? Donc, Film Flamme est aussi né par rapport à ce projet de court-métrage que j'avais fait avec eux. Parce que, justement, comme le projet s'est développé, il fallait une structure à un moment donné. Et ça, ta sœur Gaëlle Vu gère ça très bien. Et donc, ils ont organisé des résidences d'écriture, si bien qu'après, ils ont loué des locaux, créé une association parallèle qui gère ces locaux de résidence d'écriture, qui s'appelle Ligne d'air. En partenariat donc direct avec Film Flamme et voilà donc pour et Film Flamme donc pareil qui a existé à partir de ces projets de films là pour pouvoir les porter plus loin et, faire une sorte déjà de production quoi bon à travers certes une association mais pouvoir du coup avoir un regroupement justement de personnes qui avaient envie de créer et qui pouvaient aller le plus loin qu'ils puissent avec du matériel, avec plein de choses quoi. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés parce que donc moi du coup j'avais ce lien fort avec Gaëlle et Jean-François parce que leur fille était dans ma classe sur plusieurs années et puis toi sachant que c'est ta sœur aussi, mais tu vivais à Toulouse, donc c'est vrai qu'on s'était jamais réellement rencontrés.
Non, parce
qu'en
fait, je suis venu rejoindre ma sœur en 2011.
Oui, alors 2011, là, il y a eu scission. Voilà, c'est-à-dire que voilà, Gaëlle et Jean-François n'avaient plus de ligne éditoriale commune, voilà, on va dire.
Disons, c'est un couple qui s'est séparé.
Oui, mais forcément, ça impacte aussi, parce que ça n'empêche pas, on peut se séparer, mais continuer à bosser ensemble, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Là, oui, mais c'était un peu... parce que c'est...
je dirais que c'est aussi une histoire de ligne éditoriale, mais...
Non, mais puis bon, ils ont fondé Film Flamme ensemble, donc forcément, quand tu fondes une structure, t'as l'âme des deux personnalités, en fait, qui sont omniprésentes très longtemps...
Oui.
Et quand il en manque une, ben forcément...
Oui, mais encore une fois, il y a ceux qui outrepassent ça et ceux dont ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est juste que, voilà...
Non, il n'y a pas de règle, mais dans leur cas, c'est comme ça que ça s'est passé.
Tout à fait. Et c'est là, donc, que tu es venu, parce que Gaëlle t'a demandé et m'a demandé donc, de créer une association qui s'appelait L'Art de la Paix, avec qui on l'a fait. Et il y avait Marc Sialom aussi. Mais très vite, la ligne éditoriale, pareil, ne correspondait pas. Et donc, on s'est scindé en deux.
On a fait L'Art d'être trompé.
Voilà.
Et de là, notre première semaine asymétrique, on a fait une web radio.
Alors, moi, ce n'était pas ma première. J'en avais fait d'autres avant.
Oui, moi
2006,
aussi.
Oui. Mais la première qu'on a fait ensemble.
Au nom de l'ADEP, en fait.
Tout à fait, au nom de l'ADEP.
On avait proposé une web radio sur toute la semaine, jour par jour.
7 jours.
Et voilà, c'est autour de 7 jours.
7 émissions.
Où on faisait des interviews de réalisateurs, de ce qui s'était passé la journée, quoi, en fait. Les films, les débats, etc.
Tout à fait. On avait mis des micros près du bar et voilà, des sons qu'on entendait ici et là. Alors, c'était pas... j'allais dire voyeurisme, mais c'est du son, donc c'est pas le mot voyeurisme que je veux dire. Où ou de genre de la prise de sang catimini et tout ça, c'était pas ça, les micros étaient visibles. C'est juste qu'au bout d'un moment, les gens oublient qu'il y a des micros.
Tout à fait.
Et que on n'a jamais mis les gens en défaut dans ce qui a été dit, parce que de toute façon, c'est toujours anonyme et ça reste bienveillant.
C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'il y a de bien avec le son, c'est qu'on peut très vite oublier le micro. Une caméra, c'est plus difficile à oublier. Et du coup, les gens, je te rappelle, j'avais mis deux micros au pilier du bar.
Tout à fait.
Qui sortaient comme ça.
Oui.
Et les gens, pour dire dans toute intimité, dans le creux de l'oreille d'une copine ou d'un copain des choses, et ben, ils le disaient devant le micro.
Ouais.
Et du coup, on avait des chuchotements, on avait des...
De la drague, c'était mignon.
Voilà, on avait tout un... Et bon, après, c'était à nous de monter...
Oui, et puis on présentait que 3 minutes par jour sur la masse qu'on enregistrait, parce que bah, c'était rythmé, quoi. En une heure, il y avait effectivement des interviews de réalisateurs, il y avait les débats, des extraits de débats post-film, sachant qu'il y avait plus d'une vingtaine de films qui passaient chaque jour. Il y avait les micro-trottoirs de Philippe Cossignac, ce Filou pour les intimes. Donc voilà, tout ça devait tenir en une heure. Donc on faisait le montage en plus chaque soir et tout. Enfin, c'était intense comme rythme, mais enfin, j'ai énormément appris, je me suis beaucoup amusée.
Il n'y a pas grand-chose à redire, je ne sais pas si tu as su, mais dans l'après-midi, il y a quelqu'un dans le bâtiment d'en face qui nous a balancé un oignon. Apparemment,
alors, qui est passé par là. Le nom, je ne savais pas. Il y a... Alors, je ne sais plus combien d'années. Il y a quelques années, 2 ou 3 ans, on avait lancé un débat sur la question de la culture. Et une sorte de table ronde. On avait invité toutes sortes de structures, puis aussi des associations d'habitants du quartier. Et quelqu'un du quartier a réagi très fort. En entendant toutes les discussions, toutes les grandes idées qui s'échangeaient. Et puis, mais c'était vraiment un cri du cœur. Il a dit, mais la culture, c'est nous.
Dans des frontières qui sont très limitées au niveau de quartier. Les jeunes, ils sont aujourd'hui en train de se faire lessiver entre eux, entre quartiers. Il faut se réveiller, mes amis.
Je suis d'accord avec ce que tu
dis. Il faut arrêter de...
Je suis d'accord.
Ouais.
Mais une fois...
Je
suis d'accord avec ça, mais une fois qu'on aura dit je suis contre les frontières, on n'aura rien résolu.
Et dans quelque chose comme la semaine asymétrique, là où tout se joue, c'est après la projection, dans tout ce qui se discute, s'échange, se discute, se crie, c'est le murmure des fois. La priorité, c'est de soutenir les auteurs dans leur travail, mais ce travail-là doit être reconnu dans.
Ensemble.
Oui, qui est ça occupe des existences des vies entières et ça va toucher très loin les spectateurs.
Quoi?
Alors, est-ce que le cinéma est shootable?
Quoi?
Est-ce que le cinéma est shootable?
Entre les gens, dans le respect qu'il y a, dans le partage de la parole, le partage du regard. Et voilà, et c'est un petit peu ça, moi. On peut pas, enfin, les douceurs, c'est pas un donné, c'est quelque chose qui se travaille, et quelque chose qui peut pas apparaître n'importe où, n'importe comment. Alors voilà, c'est plus moi ce qui m'interroge dans ce terme-là.
Et du coup, moi, ce mot, là, dans ce que tu dis, c'est la bienveillance.
Hé, t'as réussi, alors, sur le boxeur?
Ouais, alors, c'est pas mal, hein.
Bien, hein, c'est authentique. Ouais. Qu'est-ce que t'as aimé dans ce
authentique, je sais pas si c'est...
Sans artifice, on va dire.
Oui, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un film comme ça qui cherche pas forcément à inventer une forme
ouais.
très particulière, mais.
Je repense à une phrase qu'on m'a dit un jour, je vais te retourner en douceur. Ça m'a plu. Voilà.
Voilà, nous voilà de retour après ces extraits, 10 ans de passé. Et puis nous, qui chaque jour sortions donc à chaque fois une émission d'une heure à peu près. Hein. Voilà.
Et
Donc excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure, tu disais que tu avais une anecdote.
Oui, ce fameux réalisateur italien, donc je me souviens plus le nom, je crois que c'est en 2012 ou 2011. C'est une semaine asymétrique. Je crois que c'était qui avait pignon sur rue, donc qui avait fait des films pour la télé italienne, pour le cinéma, dans la grande veine des Comencini, Visconti, etc. Quoi.
Ok.
Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de film. Il dit tiens, je vais faire un film, voilà, et je le montrerai à Filmplan. Donc il est arrivé. Donc c'était un peu la tête d'affiche, le mec.
Ouais.
Par rapport aux autres qui galèrent pour avoir des subventions, pour faire
okay.
ne serait-ce que monter des bouts d'image, toi.
Lui, et lui, il était déjà en place.
Lui,
quoi.
C'est le prince, toi. C'est le mec qui arrive. Hein. Et il monte son film.
Ouais.
Et là, à la fin, il se fait déboîter. Mais alors.
Pendant le débat, c'est pas vraiment un débat, c'est discussion,
ouais,
rencontre,
c'est une discussion,
réalisateur, voilà. public,
et auteur. Ouais. Et il s'est fait massacrer, ouais. et sans gants, hein, sa gueulette partout, ça. Et il est monté, et,
ah, c'est dur, hein.
à l'italienne, quoi, grand prince, toi.
Ouais.
Il a dit, bah, c'est le polygone. J'aurais dû m'attendre que ce film-là. et il a dit ah, ça fait quand même du bien.
Ça, c'est je veux
dire. Le mec, il a toujours.
Oui, on l'encense à chaque fois, quoi. Et là.
Même les critiques, tu vois, quand c'est des critiques de ta maison de production, ou qu'il y a une accointance avec le journal,
ouais.
c'est rare qu'il démonte un
oui,
réalisateur
bah oui. ouais, c'est clair.
De telle maison de production. D'ailleurs, ils sont payés pour qu'ils aient des subventions.
Tout à fait.
Donc,
même les cahiers du cinéma.
Voilà, même les cahiers du cinéma. et en fait. Babu, moi je vais pas trop parler, puisque tout le monde venait autour de lui, machin, toi c'était un peu la star
ouais,
le mec.
Ouais,
toi.
Oulala.
Mais j'étais à la discussion quand il était en haut, il buvait un canon, puis qu'il disait, il y avait une fille qui l'avait vraiment massacré, hein,
ah ouais.
qui est venue boire un verre avec lui et tout, et il a dit, ah le polygone, j'étais venu une fois, mais. C'est un public qui est très chaleureux.
qu'il est charmant.
Voilà. Et voilà, c'est ça que j'aimais bien, c'est-à-dire on prend pas de gants sur quelle que soit la personne en fait.
Oui.
Ça
et
peut
c'est
être...
pas parce que c'est quelqu'un de connu que voilà. soit on va l'encenser, soit on va le tailler aussi voilà. parce qu'il est connu. Non.
Non, non, c'est le propos.
C'est l'œuvre qui est.
C'est pas l'homme, c'est l'œuvre.
Non, c'est l'œuvre, tout à fait, qui est.
Et voilà, je trouvais ça.
J'ai pas envie de dire qui est évalué, mais en tout cas qui provoque des réactions.
Oui, quoi, voilà, qui provoque des réactions. Du coup, vous voulez dire que son film n'était pas trop mal s'il a provoqué de telles
Carrément.
Réactions comme ça, parce que ça a duré une demi-heure de débat ou trois quarts d'heure, je sais plus. Et c'est ça que j'aimais bien dans moi qui étais plutôt quelqu'un qui parlait beaucoup, parce que bon, j'ai animé beaucoup de réunions dans le bâtiment. Au début, je parlais pas au polygone parce que c'était pas ma manière de penser en fait. Tu vois? Et c'est petit à petit que j'ai repris la pensée, disons plus conceptualisée que d'animer une réunion où tu parles même exposer des projets. C'est vraiment une partie qui est très compliquée le débat en fait, d'exposer ton âme en fait, parce que quand tu débats sur un film. Quand tu exposes ton âme,
Bien
c'est
sûr.
Toi qui as nu, comme le réalisateur est à nu. Mmh. Tu vois, c'est en totale égalité. Et du coup, il faut oser. Mmh. Il faut oser prendre la parole.
Tout à fait.
Et je pense que j'ai réappris, si tu veux, à émettre une opinion, des opinions, alors que moi, je n'ai pas la langue dans ma bouche, comme on dit. Ma langue. Donc,
oui, que tu n'as pas ta langue dans ta bouche.
Dans ma poche.
Ah, dans ta poche. Oui, pardon. En fait, j'avais cette fois tourné sa langue dans sa bouche en même temps et ça fait une fusion.
Et du coup, j'ai dû réapprendre, après le bâtiment d'où je venais, parce que pendant 10 ans, j'ai... Mm-hmm. Et j'ai dû réapprendre à dire... Au début, je me disais, mais je suis sur une autre planète, là. Tu te rappelles la
tragédie grecque.
Une fourmi, je vois un premier film. Et il y a la fin de l'image. Donc c'est l'histoire d'un couple qui s'engueule dans le désert. Et la fin, t'as une boîte de conserve avec une fourmi qui sort. Mmh. Et derrière moi, il y a une espèce d'Allemand.
Donc au débat, une fois que le film est terminé.
Et qui dit, mais c'est Ulysse. C'est une vraie tragédie grecque. Et là, je me dis...
Je te revois, Manon, c'est ça.
Et là, je me dis... j'ai pas tout compris, quoi. Et j'étais voir, à l'époque, c'était Solanani.
C'est Julien Solanani.
Julien Solanani. Et
il fait partie des membres du Vidéodrome, voilà. Maintenant.
Et je vois...
Salle de diffusion à Marseille.
Je suis con ou j'ai rien compris, en fait. Les 3 films sont passés, là, j'ai rien compris. Je suis resté assis... Il me dit non, mais t'inquiète pas. Et c'est ça qui m'a fait bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas aussi. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas le propos du truc. Mais qui le disent. Mmh. Et toi, t'es là,
tu sais.
Tu sais
c'était pas
bien.
Je sais
pas.
Attends, mais tu sais que pour cette anecdote, une histoire de dingue. Je suis à la radio, donc là en plus c'est un film qui est passé donc en 2011-2012.
Oui, c'est ça.
2013-14.
C'était
je sais plus,
quand il y avait 2012.
Ok. Et 10 ans plus tard, donc quand on fait les rencontres frénétiques, il y a une émission de radio, c'était PSG Matin, donc près Saint-Gervais. Matin, c'est pas PSG le foot, malheureusement, ou heureusement, animé par Frédéric Danos. Et parmi les invités, donc c'était de 7h à 9h du matin, et moi complètement éclatée, il y a un réalisateur que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Rémi, tu vois son nom de famille ?
Rémi-Luc.
Rémi-Luc, tout à fait. Qui a des concepts à chaque fois vraiment qui lui sont propres, mais alors qui nous fait rentrer dans ses univers. Il pourrait te filmer une cuisine sous des angles que t'as jamais vus. Tu sais même plus si c'est une cuisine à la fin. Enfin, mais t'es dans le délire, quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé ce soir. Cette matinée-là, il dit donc qu'il présente le soir même son dernier film, et je lui dis. Oui, ton film, c'est une tragédie grecque avec la fourmi qui sort d'une boîte de conserve. Et en fait, je sais pas pourquoi ton histoire d'il y a 10 ans, j'ai fait un transfert non seulement sur une de ses œuvres, mais figure-toi qu'il m'a dit « Mais pourquoi tu spoiles ? T'es en train de raconter mon film. » Et il me dit « Mais comment ça ?» Je dis « Mais si, rappelle-toi, tragédie grecque, Ulysse et tout ça. » Il me dit « Mais... » Il me dit, mais c'est pas possible que t'aies vu mon film, j'ai terminé de le monter la semaine dernière. Et là, on part tous en fou rire et tout, en se disant, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire et tout. Et moi, je sais pas quoi dire, je dis, non, mais c'est une blague. Enfin, je sais que je suis pas folle, je suis pas en train d'inventer ce que je dis. Mais c'est fou la mémoire, comment elle nous fait défaut et comment en 10 ans il s'est passé ce truc. Et tu vois, de l'avoir transposé sur Rémi-Luc en plus, fallait le faire, quoi, pour tomber sur vraiment le synopsis de son histoire, quoi. C'est...
Voilà.
Et tellement le soir après, donc je ne suis pas restée parce qu'on devait partir en montage pour l'émission suivante, et puis j'écrivais mes billes d'humeur frénétiques à chaque fois. Je lui dis, excuse-moi, je ne verrai pas ton film. Et là, en clin d'œil, il me dit, de toute façon, tu l'as déjà vu. J'ai trouvé ça fou.
C'était juste parler un peu de la semaine asymétrique de cette année.
Ouais.
Avec les extraits qu'on a montrés, etc. Et la différence...
Donc là, sur 9 jours, en plus.
Voilà. Et là, la différence de public, mais pas de public, c'est pas le public. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de calme, un peu...
Moins houleux dans les débats.
Oui, c'est pas ça. C'est pas houleux pour être houleux. C'est que les débats... j'ai regardé un film, Ali au Pays des Merveilles. Ali au Pays des Merveilles, c'est un film de 72-76.
Tourné en Algérie.
Tourné en France. Tourné en France.
Mais sur une histoire d'un Algérien, non?
Voilà, c'est l'histoire des immigrés algériens.
Ok.
Et de l'accueil qui leur sont
réservés.
Okay. Donc c'est l'histoire d'un gars qui raconte son histoire. Mm-hmm. Et c'est un très beau film. Mmh. Qui n'a été vu qu'une fois en public. Mmh. Elle, après, elle a arrêté de faire des films. Mais c'est vraiment le premier film que je vois sur le sujet qui est vraiment bien. Okay. On a très très peu de films sur les années 70 et de l'esclavage moderne. Et tu vois ces Algériens qui font les routes et tout, puis toute cette bourgeoisie autour à Paris qui les ignore en fait. C'est de la merdade, tout ça. Faut se remettre à l'époque. Ouais. Et donc, c'est un film qui est...
qui t'a marqué.
On dit les esclaves, c'est terminé, ce n'est pas vrai. Maintenant, les esclaves, c'est qu'ils sont prémis maintenant. Tous les immigrés algériens, c'est des esclaves de France.
Tu as dû reconnaître les bidonvilles, puis même dans ce que ça vient tisser, il y a énormément de liens. Donc pour elle, c'est déjà une histoire évidemment intime et personnelle. Enfin, c'est son histoire, évidemment. Et les personnes... Donc, ils ont mené comme ça une enquête. Ils sont allés rencontrer des gens. Et ils ont finalement décidé de se concentrer sur ce personnage qu'on entend presque tout le film, Monsieur Belkhairi, qui était déjà assez âgé à l'époque. Enfin, il avait presque 60 ans. Il dit un moment peut-être 56 ans.
Dès tes premières fois, c'était trash, peut-être.
Non, c'était pas trash, c'était fou, et c'est ça que j'aime dans ce lieu, c'est son côté un peu psychiatrie institutionnelle. Que j'aime bien.
Psychiatrie
quoi.
Institutionnelle, ouais, j'aime bien.
Un peu bien de cet ordre-là. Non, ouais. Moi j'ai plein de souvenirs vraiment très. Ouais, ce qui était dans tous les sens, très beau, très dur, très dramatique, très romantique. Toujours lié au cinéma. Non, je pense que ce que moi j'aimais le mieux, mais ce que maintenant c'est interdit, et ce que je peux comprendre, c'était quand le fondateur du lieu, entre autres, puisqu'ils sont deux cofondateurs, Gaël Vu et Jean-François Néplat, c'est quand il faisait ses fondues savoyardes. Voilà. Ah. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine asymétrique, on était bien fatigué, parce que c'était quand même 7 jours, mm-hmm. regarder des films de 10h à minuit, il pétait une fondue savoyarde, et en général, la soirée, elle pétait derrière totalement. Parce que tout le monde était très alcoolisé, la projection du film se décalait à une horaire, je me souviens, c'était minuit,
c'est vrai.
Il y avait quand même des gens qui voulaient venir, mais qui n'arrivaient pas, quoi. Mm-hmm. Et c'était les gens du quartier qui venaient aussi, c'était un peu, ouais. Non, ça fait drôle, ça fait 15 ans que je le vois, et c'est chouette de suivre des moments comme ça sur des durées, parce que... On voit les gens, nous on change, les gens ont changé, le monde a changé, le cinéma a aussi changé. Mais il y a des choses qui perdurent et qui ne changent pas, quoi. Et ça fait du bien de se rendre compte un peu de ce qui change et de ce qui ne change pas, quoi. Je trouve que la mémoire là-dessus, elle est...
On s'engueule moins.
On s'engueule un peu moins, mais c'est peut-être avec pas mal aussi. Ça a été un gros dilemme, ça, la question de s'engueuler un peu moins. Mais je trouve que c'est l'époque et je trouve que c'est bien aussi de s'engueuler un peu moins, de s'aimer un peu plus.
C'est effectivement, c'était le truc. Enfin, moi, donc, quand je suis arrivé, et je pense que c'était. Je pense que c'était 2012. Donc là, ouais, voilà, ouais. Ça fait 10 ans que j'ai ici. Je pense que c'était 2012.
Wow.
Et je suis arrivé un peu en dernière minute. Il y a eu tout un truc où j'écrivais à Julien.
Julien Gourbex.
Gourbex, ouais. Mm. Qui me répondait toujours avec des semaines de délai, enfin pour des trucs. Et puis bon, finalement, bah oui, viens. Donc, mais la programmation est déjà faite, donc on m'a foutu à la fin d'une journée de programmation. Donc okay. Genre, c'était à minuit.
Vois, les gens ça. Sont bien.
Et sauf que donc moi, je suis arrivé et en 2012, c'était encore. C'est moins maintenant, mais ce truc que. De toute façon, les débats débordaient sur les projections, qui débordaient sur les repas, qui débordaient sur les débats, etc. Et moi, mon truc, j'ai dû faire le truc à 1h30, quoi. Donc, 1h30 du mat. J'avais déjà passé quelques jours ici, peut-être 2-3 jours, je sais pas, avec... Il y avait des super engueulades, parce que non, ça fritait grave et tout. Ça picolait bien, enfin... Encore plus que... Plus que maintenant et tout. Il y avait un truc, un truc complètement... Complètement dingue, quoi, ouais. Très...
Frénétique.
Frénétique, ouais, une sorte de truc...
Surréaliste.
D'adolescent alcoolisé. Ouais, voilà. Et... non, mais il y aurait vraiment un truc à faire sur l'alcool et les films plats. Non, mais c'est vrai.
Ouais, mais ce qui était bien, c'est que...
Mais ce truc... Il y a eu ces projections et après, donc, je fais mon truc, c'est... Ça durait 1h30, donc il est 3h du matin, et là, on fait quand même une discussion, quoi. Donc, moi, évidemment, j'en pouvais plus, mais la moitié de la salle où il n'y avait que 10 personnes, elle dormait. Enfin bon, je sais pas, et puis après, bon, voilà, mais moi, mon premier souvenir,
faut
c'est
préciser
ça, quoi.
Que
c'est d'arriver dans
films...
un lieu où ça... Où ça discutait parce qu'on regarde un film.
Et après, il y a débat. Ouais.
Et après, il y a débat. Et que le film qu'on vient de voir, personne ne le connaît. Enfin, ouais. Peut-être des gens le connaissent, mais il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de. Etc. Mm-hmm.
Et parfois, il est même en cours de travail. Mm-hmm.
Ouais. Voilà. Ouais.
Ah, bah c'est au moins, tu as vécu le souvenir de ce qu'a été à l'origine la semaine asymétrique. Quoi.
Ouais. Et là, je me suis dit, pas mal quand même. Un bon truc quand il va.
T'en souviens. La mémoire, là, ça s'inscrit.
Tout est parfait. Alors,
Je veux dire, pour parler de l'image et du bateau, hein, avec les bateaux, à voile évidemment, parce que sinon c'est pas de la navigation, et, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de trouver le meilleur angle par rapport au vent. Hein,
c'est vrai.
Dans la prise de vue, la caméra, les meilleurs angles par rapport à la lumière.
Ah!
C'est ça.
Jean-François, toi aussi, c'est par rapport à la lumière.
Je dirais que c'est le. Bien sûr que sans la lumière, t'as rien. Hein. C'est... Je crois que je viens de faire une expérience là de filmer de nuit à vitesse très basse, à une image ou deux images par seconde. Ben, je voyais plus rien hein, dans le. Dans le hueton, je ne voyais plus rien et il fallait quand même faire des images. Après, et après, tu vois. C'est-à-dire que ça apparaît quand même sur la pellicule quelque chose, alors que toi, tu n'as rien vu quand tu as tourné. Quoi. C'est intéressant. Mm-hmm. Mais je dirais que c'est quelque chose qui a à faire avec l'acceptation des choses. C'est-à-dire que tu acceptes le monde qui t'est donné. C'est, tu le prends, tu l'acceptes. Et voilà, c'est, tout est un cadeau, tout de ce que tu regardes est un cadeau, comme pour naviguer, le moindre souffle d'air est un cadeau.
Non mais il coule, excusez-moi, pardon.
Changé avec ceux de cette année. Alors cette année, il y a quand même eu donc la 15e édition de la Semaine Asymétrique. On en est aux 20 ans du polygone étoilé. Nous sommes en 2022 et là on s'est dit tiens, on les referait. Enfin, c'est vrai que à la Semaine Asymétrique, ça a beaucoup plu et je pense que tout le monde aurait aimé qu'on refasse ça chaque année, mais en énergie, c'est énorme.
On aurait pu le faire, mais
sachant qu'on voyage beaucoup aussi, donc
mais après
c'était pas évident. Mais là, bon, on avait dit à l'année prochaine, et puis en fait, on l'a fait 10 ans plus tard, et là, sur 9 jours, cette année.
En fait, ce format, c'est toujours bien. Après, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui le fassent, je pense. Le Polygone aurait pu faire leur podcast.
C'est vrai.
Voilà, comme une trace, en fait. Après, bon, ils n'ont pas voulu. ou peut-être trop d'énergie, je sais pas, mais...
Après, enfin, honnêtement, hein, même moi qui, peut-être, j'ai des facilités, en tout cas, de structuration en matière de scénarisation, parce que c'est mon métier, enfin, que j'aime écrire et voilà, et m'organiser, mais d'un point de vue technique, toi, en tant qu'ingé son, j'aurais pas tes compétences, ça donnerait pas pareil. Enfin,
j'arriverais
pas de la même façon.
Quand tu es dans la formation, on aurait pu très bien former des gens à faire ça. Le son, c'est ça aussi. Quoi.
C'est pas faux.
Donc, c'est débrouiller pour faire un direct n'importe où, pour faire un live, pour faire une radio.
C'est vrai.
Mais partie aussi d'un apprentissage. Hein. C'est pas,
complètement. Moi, vraiment, c'est grâce à toi que je me débrouille si bien, parce que, et encore, bon, je ne suis pas ton niveau,
après,
mais...
Après...
Mais d'être bien entouré, ça aide.
Donc voilà, bon...
Après, c'est peut-être une question d'envie aussi, parce que parfois, ça nécessite du montage. Il y a quand même eu la création d'un générique. Plein de choses. Mais c'est vrai que oui, c'est libre et que n'importe qui peut se l'approprier. Mais bon, peut-être que la façon dont nous on l'a fait, les autres le referont peut-être pas de la même façon et du coup, ils se sentent moins à l'aise. Non, mais il y a peut-être ça aussi, tu vois, c'est pas... Et puis, enfin, même moi, si je devais reprendre le projet de quelqu'un d'autre, je sais pas si je serais aussi à l'aise que ce qu'on a créé, parce que finalement, c'est quelque chose qui vient de toi et de moi. Tu vois ce que
oui,
je veux dire?
Non, mais on en revient au, chaque fois que tu lances quelque chose, on voit bien qu'une flamme, c'est.
Oui, tu t'approprie.
C'est Jean-François Hegel, par exemple.
Oui.
Ça met du temps à passer la main.
Bien sûr.
Tu vois,
ça complètement. Met, avec Martine Derain aussi, où ça a pris une autre dynamique, effectivement.
Et même là, pour passer la main, c'est compliqué quand tu t'as créé, façonné quelque chose.
C'est vrai.
À ton image, avec l'engagement du point de départ, de l'origine, qui change.
Qui traverse des générations.
Le point commun ne change pas tellement. C'est les gens qui changent.
Aussi.
En fait, la direction du lieu, politiquement, d'implantation, etc., ne change pas tellement de la genèse, de l'origine. C'est les gens qui changent.
Pas fou.
Et qui s'approprient ou pas. C'est pour ça que ça donne des choses un peu étranges. Parce que la direction du polygone, comme d'autres structures, hein, c'est pas propre au polygone. Hein.
Bien sûr.
Et quand tu crées une structure, qu'il y a des gens.
Nous, on a vu, ne serait-ce qu'au sein de l'ADEP. L'ADEP va bientôt avoir 10 ans, puisque c'est depuis 2014.
Ouais. Mais toi, que les gens, ils s'approprient pas.
C'est beaucoup d'énergie. Et pour faire vivre la structure, et
non,
pour
et je pense
faire adhérer aussi,
parce que
une idée.
Pas. C'est pas leur projet. Quand tu crées un projet, c'est comme faire un bébé, c'est comme faire
complètement.
Enfanter quelque chose.
Complètement.
C'est comme si tu donnais ton gamin, tu donnais un orphelinat, en fait, d'élever ton gamin. Donc, c'est pour ça que ça donne des choses un peu étranges.
Mais je voulais juste revenir sur le format donc, des rencontres frénétiques qu'on a fait cette année, parce qu'il y a des choses qui ont changé. Donc là, on n'a plus fait les micro-trottoirs. À la place, j'ai fait des billets d'humeur frénétiques de 3 minutes à peu près, dont on peut mettre quelques extraits maintenant.
Cinquième jour. Attendez, nous sommes déjà au milieu de la semaine asymétrique? Les jours se cumulent et ma mémoire me fait déjà défaut. Honnêtement, je ne me souviens plus exactement quel film ai-je vu et quand. Oui, même ceux d'aujourd'hui. C'est accablant. Parfois, le souvenir se confond entre la perception et la réalité. Et quelle réalité? Puisqu'il faut... voir qu'avec son propre prisme, car elle est unique quand on y réfléchit. Ah, quelle expérience immersive! Elle nous transcende et nous transperce à tous les niveaux, à toutes les dimensions. Les gens m'appellent et me voient courir partout. Essayer d'écrire un billet d'humeur de 3 minutes environ chaque jour, préparer une émission de web radio d'une heure incluant différents moments, regarder des films, enregistrer des tranches de vie et des ambiances, participer à l'entièreté de ce qu'offre l'aventure de la semaine asymétrique, je vous garantis que c'est sportif. Alors certes, nous sommes deux sur le coup avec Yann Vu, mais une fois la journée passée, nous enchaînons une partie de la nuit à trier les rushs puis à monter l'émission que vous écoutez actuellement. Moi qui pratique la pole dance et le yoga, je peux vous dire que durant 9 jours, j'en oublie carrément leur existence ainsi que ma vie sociale, ma vie d'entrepreneur ou de mannequin occasionnel. Je suis jetée à corps perdu dans cette euphorie collective qui occupe mes quelques neurones encore connectés. Dire qu'à force de discussion, on me considère parmi les vieux de la vieille au sein de FilmFlam, j'ai l'impression de toujours avoir à tout apprendre tellement les techniques en cinéma évoluent constamment. Chaque maître a été un jour un élève après tout. Mais peut-être qu'un bon maître est finalement un perpétuel élève ? Quoi qu'il en soit, ma soif d'apprendre et de toujours me surpasser sont inébranlables, et même des personnes comme Yann Vu, ayant dépassé les 60 ans et qui continuent à s'émerveiller des nouveautés technologiques, m'inspirent beaucoup. Alors poursuivons cette exploration artistique à travers les autres, et soi-même, au-delà du lieu, au-delà de l'espace, au-delà des cultures, au-delà des frontières, et où tout reste possible. Mais, waouh ! Vous l'avez vu ? Saviez-vous qu'il n'y a pas de saison pour les moustiques à Marseille ? Décidément, tout est possible. C'était la chronique de Linois l'amour.
Voilà, sinon il y a toujours les extraits de débat. Et puis, il y a aussi un mot au hasard qu'on met à chaque fois. Et ça, je l'avais repris aussi de ce qu'on faisait déjà il y a 10 ans. Où on mettait un mot et puis on voyait ce qu'on en faisait. Voilà. Donc les personnes se l'appropriaient ou pas forcément, mais ça donnait toujours quelque chose. Et est-ce que tu as une anecdote particulière qui t'a marqué de la 15e semaine asymétrique cette année ? Et si tu veux, pendant que tu réfléchis, moi j'en ai une, justement, pour rebondir sur ces mots qu'on choisissait. Une fois, donc pur hasard, on est avec Frédéric Lagny et Danos. C'est quoi son prénom ?
Frédéric.
C'était Frédéric aussi ? Il y a deux Frédéric ?
Frédéric Danos.
Frédéric Danos et... Non, c'est pas Frédéric. Olivier Rousseau.
Ah,
Olivier. On était avec Olivier Rousseau et... Frédéric Lagny. Et avec eux, la thématique, c'était imperfection. Et à un moment donné, on était en train de tourner, la caméra coupe. L'image reste figée, donc je ne sais plus si c'est la numéro 5, 4 ou 5, ou 6. Enfin, et en tout cas, voilà, il se passe ça, mais on continue quand même l'émission. Et voilà. C'est ça que j'aime bien avec toi aussi, c'est qu'on s'approprie aussi les imperfections. Pour continuer
en fait,
quand même.
Il s'est passé deux choses.
Avancer. Ah, t'as une anecdote.
De cette émission, c'est que la carte mémoire était pleine de la caméra, donc. Et que le son aussi. Qui est rare, puisque je télécharge
tout à fait
à chaque fois.
Mais il faut qu'on explique un truc, c'est que parfois, il nous arrivait de tricher par rapport au planning des réalisateurs. Voilà. On faisait deux émissions au lieu d'une dans la journée, ce qui explique ça.
Et du coup, il n'y a plus de son, plus d'image. Donc, il fallait que je règle le son en 5 minutes pour pas... j'ai mis 3 minutes pour changer d'enregistreur. La caméra, on a mis une image fixe pour continuer l'émission. Mais après, ça, c'est des réflexes que j'ai souvent eus. Je suis un technicien. Bon, je suis pas... j'ai pas peur ou j'ai pas...
Oui, s'il y a un problème, on a l'habitude de les régler. Enfin, de toute façon, je crois que dans le cinéma, tout le monde a une anecdote.
Parce qu'il y a des gens qui paniquent, j'ai déjà vu.
C'est vrai. Oui, mais en tout cas, quand tu es réalisateur, tu es obligé de passer un peu partout et de faire en fonction.
C'est surtout quand tu es technicien.
Non, regarde. Enfin, là, tu vois, si on peut
revenir. Un réalisateur, il, en technique, il maîtrise pas.
Mais regarde, par exemple, on était à un tournage sur ton film Avance, un film que tu as tourné en 2016. Mmh. Et là, donc, c'était la chef-op qui gérait la caméra. Et puis, il y a eu un soir, 5 heures de tournage avec Greta Sandon, une superbe danseuse italienne, qui avait fait un truc incroyable. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. La carte mémoire qui a grillé, je crois.
Ouais.
Et du coup, il a fallu retourner. Retrouver la nuit, enfin rebloquer le lieu, parce qu'en plus on tournait dans une chapelle, je crois, ou une église. Enfin, un truc fou, quoi. Enfin, pour dire que, ouais, en tant que réalisateur, si, forcément, il peut y avoir un aspect technique où il y a un truc pas géré ou quoi, ou c'est inaudible,
oui, mais
que sais-je, ou.
Tu vois le, c'est ça que je te dis, c'est exactement ce que je te dis. C'est que le réalisateur, techniquement, n'a aucune prise.
Oui, oui.
Après lui, c'est le chef d'orchestre, donc c'est comme un patron.
Oui. C'est ça. Un entrepreneur.
Voilà, bah, tu perds la journée de boulot. Enfin. Mais.
Et il faut. Faut pas en faire un drame, il faut rebondir.
Bah après, voilà, faut gérer l'équipe.
Ouais, c'est ça. D'où les assistants. Enfin, moi, j'étais assistant préalable.
Mais en fait, moi, c'est pas des choses qui me font paniquer, c'est comme ça. Bon, c'est la vie, elle est comme ça.
Oui. Et du coup, tu repenses à une autre anecdote sur une des semaines asymétriques, même pas forcément celle-là, celle d'il y a 10 ans ou...
Asymétrique.
Si tu veux encore une fois, pendant que tu réfléchis, moi j'en ai une.
Ouais, j'en ai une.
Vas-y, après je dis la mienne.
C'est une semaine asymétrique qu'on a fait avec. C'était Julien Gourvex qui était.
Ah ben c'était celle de 2012 alors. Ou 2013.
2013, je crois.
Ouais.
C'était
dans
2013.
Marseille, capitale européenne de la culture, 2013.
Ouais, ou 2013-2014. C'était dans ces eaux-là.
Ok.
Parce qu'on en a fait 3 avec Julien, je crois.
Ouais, ok. On l'embrasse d'ailleurs.
Et en fait, là aussi, c'était très étrange.
C'est un réalisateur.
Il y avait beaucoup de films. Enfin, tu sais que le polygone, il tourne autour beaucoup d'Italie, de la Belgique. Italie, Belgique. Voilà.
Oui, enfin l'Europe, quoi. Ouais.
Bah, l'Europe, Italie,
Espagne,
Belgique.
Espagne aussi.
Dans l'Espagne, bon, voilà. Ouais. Mais ça tourne beaucoup
parfois
autour.
Parfois Maroc aussi, enfin, oui.
Ça tourne beaucoup autour de ces pays-là. Et puis, cette année, il y avait beaucoup
Donc en 2013 ou en 2014.
Film algérien, film africain, tu vois, il y avait deux, trois pays qu'on n'avait plus l'habitude de voir, en fait, qui étaient là. Dont une réalisatrice qu'on a connue. Et puis, il y avait aussi l'expérimental. C'est vraiment très sympa, cette semaine.
Ah, tu parles pas de Samantha? Samantha qui avait fait un film, je crois, au
où
Togo,
elle,
je sais plus,
oui,
à partir de photos. Et
voilà,
tu
te rappelles?
Ouais, effectivement.
Et donc, il y avait...
Elle est de Valence, je crois, on l'embrasse.
Voilà. Il y avait... Il y avait aussi l'expérimental où tu avais un couple ils le font plus maintenant, on voulait y aller, mais qui faisait un festival.
Ah oui, du côté de Grenoble.
Dans le Trièvre, voilà. Donc tu avais toute cette partie-là, avec les Mortada, avec. Cette africaine, ou qui est métisse, quoi. Et de l'autre côté, c'était assez flagrant parce qu'il y avait deux populations qui s'affrontaient, en fait. Parce que de l'autre côté, il y avait Claire Angelini, Boris Lehmann, il y avait aussi Frédéric Lagny, etc. Qui avait fait des films sur l'Algérie ou l'Afrique, parce que le Congo, je crois.
Oui.
Et ça donnait deux choses en opposé, en fait.
Oui, dans la réalisation, dans l'approche. Après, Frédéric Lagny, elle est plasticienne aussi.
Oui, non, mais oui. C'était les Blancs d'un côté, qui voyaient le monde Afrique, etc. Et les Africains eux-mêmes...
Qui montraient leur point de vue...
Leur point de vue d'Africain sur leur vie propre. Mmh.
Ah, et du coup, cette sensation de cliché, de...
Eh ben, d'un côté, de, si tu veux...
De point de vue.
On voyait l'opposition entre alors, je dis pas que c'est des colons, mais ils sont issus de la culture coloniale. Même si t'es communiste, ou t'es
oui, bien sûr.
T'es issu de la culture
non oui, 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 couture, bien sûr.
Donc, il y avait ça en opposition et les colonisés, en fait. Ou les ex-colonisés. Eh bien, cette scission était visible. Tu avais une ligne de démarcation, en fait.
Dans la salle
Dans la salle.
Ah ouais.
Tu avais autour du bar, je ne sais pas, Boris Lehmann, Terence Giannini.
Ouais.
C'était pas voulu, hein, je n'en veux pas.
Ah
c'est
oui.
Puis,
c'était
puis
un
nous,
constat que tu as fait.
Et puis nous, de l'autre côté, en fait... Oui, Mortada, les Algériens, l'Africaine, etc. Tu vois ? Et donc, tu avais deux.
Angela, ça me.
Voilà. Et du coup, tu avais ces deux mondes qui étaient vraiment en opposition de vie, d'humour, de manière d'exprimer la fête. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'était.
Visible,
Et moi qui suis métisse en plus, eux-mêmes ne le voyaient pas ce qui se passait.
C'était franco-vietnamien.
Voilà.
Et moi, je voyais
cette frontière en fait. Et je me suis dit à ce moment-là que c'est pas gagné. Quoi.
Du coup, peut-être parler de notre rapport personnel à Film Flamme, chacun, notre parcours. Même si on l'a déjà dit, mais comment on s'y sent dans cette structure, sachant qu'on a aussi la nôtre.
Ben moi, mon rapport à Film Flamme, comment je peux dire, mon rapport à Film Flamme, c'est...
Il a été évolutif, je pense pas que ça a été le même depuis le début. Enfin, moi, par exemple, j'avais 13 ans quand j'ai commencé, aujourd'hui j'en ai 38. De l'eau a coulé sous les ponts. Ben, ça n'a pas toujours été facile, mais je crois, quelles que soient les structures, c'est pareil. Mais ça reste une histoire d'amour, pour moi, quand même.
Oui, bah c'est une histoire de fratrie, de toute façon. Film Flamme.
Parce que, ouais, moi, aujourd'hui, si je fais du cinéma, c'est clairement cette structure.
C'est un lieu qui est sans doute unique en France où tu as des personnalités qui viennent d'un peu partout et qui se rencontrent à un instant T, qui travaillent ou pas ensemble, qui discutent ou qui s'engueulent ou qui échangent. Ensemble pendant une durée de 10 jours et récurrent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. En fait, c'est toujours beaucoup les mêmes gens qui reviennent, ajoutés à d'autres gens qui arrivent. Tu vois ce que je veux dire ? Et
qui partent aussi. Hein,
oui, qui arrivent et qui partent, mais qui partent.
Et qui ont cette liberté.
C'est la fratrie. C'est-à-dire, quand tu t'entends pas avec ton frère ou ta sœur, tu t'engueules, tu te vois pas pendant 3 ans, et puis,
puis tu reviens.
Et puis ça revient, ça.
La mémoire.
Et je trouvais ça là où, moi, en tout cas, j'avais un peu ce rapport-là à Film Flamme. Alors, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours surtout.
Pour tous, hein, je pense.
Parce que les artistes, c'est quand même des égos assez forts, en général. Donc,
exactement.
Voilà, les semaines asymétriques, les nuits étoilées, les rapports avec aussi d'autres associations. J'ai toujours de bons souvenirs de belles soirées, quand même. Tu vois, d'échanges, de débats, de discussions.
Complètement.
En coin de table. De projets aussi
qui émergent.
Qui émergent.
Certains
sur le
qui
lieu.
Avortent aussi, mais voilà. C'est comme tout. Hein.
Donc voilà, puis je trouvais aussi que. Ça apprend aussi aux jeunes qui arrivent à débattre.
C'est
je pense que c'est une belle école du débat, Film Flamme.
C'est vrai.
Parce qu'il y a des gens un peu de partout qui ont, sont étrangers. Il y a eu des Coréens, il y a des Allemands, il y a des Algériens, des Guinéens. Enfin, et du coup, j'ai toujours des souvenirs, ou des Latinos, par exemple,
Argentins
qui doivent exprimer des choses devant un parterre d'autres réalisateurs qui viennent du Nord, qui viennent de France, avec des parcours différents. Et du coup, pour exprimer, pour défendre son film ou défendre une intention, chose très difficile, surtout quand on parle en langue étrangère, en fait, qu'on doit s'exprimer en français. Et pour les jeunes, qui des fois, moi j'ai vu des jeunes, ils disent, oh là là, c'est, je ne montrerai jamais un film là, quoi, parce que. Et en fait, c'est la peur de la confrontation, tu vois. Et oui, c'est vrai que j'ai une anecdote, par exemple.
Ce qui est drôle, c'est que on peut s'engueuler pendant un film parce qu'on a des points de vue différents avec le réalisateur, tout ça, et se boire des bières juste après, quoi.
Ah oui, oui,
Et d'autres films enchaînent, et voilà. Bon, certains le prennent plus ou moins bien, c'est toujours une histoire d'ego et tout, mais en soi.
Mais en soi, c'est pas grave, ça.
Ouais, carrément.
Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas des. On n'est pas des critiques professionnelles, on ne vient pas du cahier du cinéma, tu vois. On est vraiment des spectateurs, des auteurs.
Pareil, les cahiers du cinéma, ils ont leur point de vue, mais.
Oui, mais.
Une ligne éditoriale.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que les critiques de cinéma, c'est un métier.
Ah oui, oui.
Et ils ont une ligne, ils vont soutenir tel film par rapport à tel producteur. Nous, il n'y a pas du tout ça. Nous, c'est comme si on regardait un tableau, c'est comme si on regardait.
On parle avec le cœur.
Voilà,
et les tripes.
Et tout sort. Donc voilà, je trouvais que cette aventure Film Flamme était intéressante sur ces points de vue-là, en fait.
Je suis d'accord.
Je trouve qu'ils ont formé quand même beaucoup de réalisateurs à faire leur métier. Faut pas l'oublier qu'ils ont formé des cadreurs, des monteurs. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Et maintenant, qu'ils travaillent dans d'autres structures.
Carrément.
Tambour de soie.
Même les producteurs.
Oui. Donc, voilà. C'est
les gens viennent avec leur envie. Il faut être autonome. Mais en tout cas, on t'aidera à aller le plus loin possible, quoi. On te dira jamais non. Je voulais juste mettre aussi, pour revenir donc à nos émissions Rencontres Frénétiques, notre générique, parce qu'on a repris le même que celui d'il y a 10 ans, et moi je l'aime beaucoup, personnellement. C'est toi qui l'as composé, donc on l'écoute et on revient tout de suite.
Non.
La voix.
Enfin, moi, j'ai toujours été épatée parce que tu l'as fait rapidement. Et dedans, il y a tout, en fait. Il y a plusieurs couches, il y a des voix, il y a du rythme, il y a de la musique. Il y a même un clin d'œil à toi, un peu avec le bâtiment, enfin, ce côté machine, un peu. Enfin, voilà, ça évoque plein de choses. Et en plus, tu sais très bien manier ça, de superposer les couches sans que ça fasse une soupe ou un truc.
De toute façon, le générique, c'est où tu l'as tout de suite, ou tu l'as pas, ou tu le cherches, parce que les thèmes. Qu'on t'impose, c'est pas ton truc que tu fais naturellement. Donc là, c'était pas le cas. Mais en général, quel que soit le thème, je vais assez vite parce que je me mets toujours dans la peau de celui qui. Dans le point de vue, en fait. Moi, le point de vue, c'était quoi? C'était le cinéma, international,
intergénérationnel,
intergénérationnel, le espèce de souffle comme ça, de chemin.
Ouais. Oui, le souffle.
Qui nous amène à, voilà, un début, une fois.
Ouais. Les langues.
Et à partir de là, une fois que je suis sur la machine...
Parce que là, il y a au moins une dizaine de couches, non?
Ouais, mais une fois que je suis sur la machine, ça y est, je sais ce que je vais faire.
Ok.
Autrement, je me mets pas à monter.
Non, mais tu le penses avant, du coup.
Voilà, en amont, je le pense dans l'espace. Et quand je me mets sur la machine, je sais ce que je vais faire. Après, c'est juste des ajustements de la microchirurgie, si tu veux, mais voilà.
Non, parce que... l'année dernière, enfin pour cette année, tu voulais changer le générique sur un truc complètement différent, avec un bruit de porte et tout ça, un truc plus visuel. Mais je trouvais qu'on perdait l'âme de celui-là qui.
Oui, après un générique, oui, un générique, c'est comme une carte de visite.
Cette année. Oui, mais c'est une belle carte de visite celui-là, parce qu'en plus il fait intemporel et tout, enfin, et il nous ressemble bien aussi quelque part. Donc j'ai trouvé ça chouette, effectivement. Et sinon, on va peut-être finir sur nos actualités. Donc, toi, tes actualités, c'est quoi?
Ben, j'ai sans doute là travaillé sur un projet de film documentaire d'installation contemporaine avec une réalisatrice. Où le son est très intéressant. Et j'essaye vraiment d'écrire un livre que j'espère sortira un jour.
Non, faut dire prochainement.
Ouais, prochainement, mais l'écriture, c'est un drôle d'exercice. Et quand tu fais que ça, ça va, mais quand ton esprit est ailleurs, etc., que tu fais d'autres choses en même temps, l'écriture devient très compliquée, en fait.
C'est, voilà. C'est un vrai sport. Hein. Enfin, moi, je sais, j'adore faire ça, effectivement. Là, par exemple, enfin, dans mes prochains projets, je pars en Algérie. J'ai pas forcément prévu de faire de films là-bas, mais essayer de lancer ma chaîne YouTube en écrivant un billet d'humeur frénétique par jour. Et rien que ça, ça va être un gros challenge déjà. Donc, même si, encore une fois, j'aime écrire et que c'est une gymnastique, mais je comprends complètement ce que tu veux dire.
Non, voilà. Donc, après,
Bah, souhaitons qu'il sorte, parce qu'en plus, t'écris bien. Et pour avoir lu quelques-uns de tes chapitres, on attend que ça sorte. Ok, bah, donc pour te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux?
Non.
Toi,
je suis pas sur les réseaux sociaux.
Non,
mais
t'es que sur LinkedIn.
Ouais. En général, j'utilise pas cette forme. Si on peut me retrouver, en fait, si on veut me retrouver,
passer par Linois.
Non, puis on peut me retrouver, voilà, facilement.
En tout googlisant.
Pour les gens qui ont envie de me faire un coucou, il y a pas. Ils me font coucou.
Tu les vois.
Hein, voilà.
Tu les vois, ok. Ouais, ben sinon pour moi, par contre, c'est le contraire de Yann, je suis partout. Facebook, Instagram, je suis très très active. Je poste une story momentanée par jour, j'essaye en tout cas. Je suis sur Twitter également, TikTok, et oui, même TikTok. LinkedIn, je crois que j'ai à peu près tout dit. Sinon, il y a notre association Ardè Trempè, ade.org, ADEEP.org. Et sinon, donc, pour suivre, voir, écouter les rencontres frénétiques, donc, vous googlisez simplement les rencontres frénétiques sur Internet, enfin, votre moteur de recherche, vous le retrouvez, soit sur YouTube. On est en train de les mettre sur les podcasts et tout ça, et voilà. Et c'est vrai que, en fait, pour la petite anecdote, je suis actuellement en Algérie au moment où l'émission sort, mais on l'a enregistrée avant. Voilà. D'ailleurs, ben, on remercie Radio Galère, Lo Tivol et Waib Mortada pour l'invitation à relayer cette expérience artistique hors norme durant la carte blanche de l'art d'être en paix, entre parenthèses ADEP, ADEEP, lors de l'émission de radio Enquête de cinéma. C'était Lino Alamour et Yann Du pour une rétrospective des podcasts Les Rencontres Frénétiques pour les 20 ans du Polygone Étoilé lors de la 15e semaine asymétrique 2022. Merci beaucoup pour votre écoute. On espère que ça vous a plu. Et puis Yann, tu as un dernier mot ?
Non, bah, bonne continuation. Voilà.
On vous souhaite une très très bonne année avec ces nouvelles élections.
Il faut aller vers le meilleur.
Quoi. De retour, c'est ça. Voilà, restez positif quoi qu'il arrive. Très bien. Eh bien, merci.
Au plaisir. Au plaisir. À bientôt.
Au revoir.